pour vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Take care.
Bon voyage, messieurs, bon voyage, mesdames, bon voyage, les enfants, les papas, les tontons, les tontines, les grands-papas. Ici votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Nous décollons, nous quittons Washington, direction Africa aujourd'hui, toujours avec notre sujet de la semaine, et bien sûr de la bonne musique africaine, mais de la bonne musique africaine un peu mélangée, beaucoup plus Salif Keita. Oui, c'est une émission spéciale. On aura une partie d'interview avec notre collègue Nathalie Barge, qui a interviewé Salif Keita ici sur VOA Afrique. Et bien sûr, moi-même, je vais interviewer pour vous en live, en direct, Madame Keita Kumba, qui est la femme même de Monsieur Salif Keita, notre star internationale. Donc, vous ne voulez vraiment pas rater cette émission ce soir. Attachez vos ceintures de sécurité, les amis. Nous quittons Washington en ce moment. Je vois déjà qu'on va décoller. On décolle. Commandant de bord vous promet de la bonne musique African Music comme chaque jeudi et notre sujet de la semaine, bien sûr, fait pour briller, le thème qui avait été choisi cette année par les Nations Unies pour célébrer et mettre en avant les réalisations et les succès des personnes atteintes d'albinisme malgré les nombreux défis, comme on l'a dit depuis lundi, auxquels elles font face. Les personnes atteintes d'albinisme sont victimes de nombreuses formes de discrimination dans le monde. L'albinisme continue d'être profondément mal compris, aussi bien sur le plan social que médical. Alors, vous êtes en train de réagir cette semaine, mais aujourd'hui, une émission spéciale, tellement spéciale, parce que, oui, vous allez écouter une partie d'interview qu'avait conduite ma collègue Nathalie Barge avec le superbe, ou la superbe star, allais-je dire, Salif Keita, qui sera aussi notre invité en deuxième partie de cette émission. Mais en première partie de cette émission, moi, en tout cas, c'est un honneur, un privilège pour moi de recevoir pour vous, oui, Madame Keita, oui, Madame Keita Kumba Makalu, qui est la présidente de Salif Keita Global Foundation. Elle nous en parlera un peu plus, mais elle est aussi Madame Salif Keita. Donc ne quittez surtout pas, on décolle avec cette belle musique Moussoulou. Ah oui, cette belle chanson de Salif Keita. Nous revenons dans un instant pour suivre notre interview en direct ici sur VOA Afrique.
Oh,
Que de belles voix, ces chansons. Salif Keïta que vous écoutez ici sur VO Africa, Salif que vous allez aussi écouter en interview ici dans cette émission, et ici Madame Keïta qui sera mon invitée ce soir. On passe vite à l'anglais. L'anglais c'est chaque jour entre 20h et 21h sur Universel. L'anglais c'est tout de suite. Hello Miss Michelle Joseph, what do you have for us today?
Hello Roger, salut Roger, bonjour tout le monde, hello everyone, the word of the day, reach, ça s'appelle R-E-A-C-H, reach, étendre la main, to reach out one's hand, étendre la main ou le bras, I can't reach it, je n'arrive pas à l'atteindre, I can't reach it. It's too high, I can't reach it. C'est trop élevé, je n'arrive pas à l'atteindre. Did you reach home? Es-tu arrivé à la maison? You can reach me at VOA News. www.ireachedoutohim.com. Vous pouvez me joindre à I reached out to him, se rendre accessible à quelqu'un. I reached out to them. You can reach me at... Back to you, Roger.
Back to us, comme on a un programme chargé aujourd'hui, pourquoi pas passer à l'actualité vite fait et puis nous revenons pour commencer notre interview avec Madame Keita Kumba Makan. L'actu, c'est tout de suite. Au Burundi, le président élu Évariste Ndayishimiye a prêté serment après le décès soudain de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Il prend à main les destinées d'un pays divisé, isolé, appauvri et confronté au Covid-19. En Centrafrique, la MINUSCA et les forces armées nationales lancent une opération militaire contre les rebelles de 3R, signataires de l'accord de paix du 6 février 2019, mais accusés de fouler aux pieds leurs engagements. Le Soudan a proposé de confier au Premier ministre des pays concernés les négociations avec l'Éthiopie et l'Égypte sur le méga barrage construit par Addis Abeba sur le Nil, source de vives tensions régionales. Le Caire a affirmé que cette proposition a été rejetée par les Éthiopiens. Amnesty International a appelé les autorités égyptiennes à mettre fin à leur campagne de harcèlement à l'encontre du personnel médical dont plusieurs membres ont été arrêtés pour avoir critiqué la gestion par le gouvernement du Covid-19. Nous avons Madame Keita Kumba Makalu qui est présidente de Salif Keita Global Foundation. Madame Keita, bonsoir et merci de nous accorder ce temps.
Bonsoir Roger.
Alors vite fait, on va d'abord parler de la fondation Global Foundation, Salif Keita Global Foundation, pour ces fans de RM Show qui ne savent pas exactement, bien que cette fondation est connue mondialement, mais il y a certains de mes fans qui ne savent pas exactement c'est quoi. Si on vous demande en quelques mots de nous expliquer, c'est quoi exactement ce Salif Keita Global Foundation?
La fondation Global Salif Keita est une fondation américaine à but non lucratif, donc qui est basé à Washington. Et le travail qu'on fait, c'est à travers le monde. Donc on soutient principalement le travail au Mali de la Fondation Salif Keita pour les Albinos, mais aussi on travaille avec d'autres organisations à travers le monde, même jusqu'en Israël, par rapport au bien-être des personnes atteintes d'albinisme et aussi pour la défense de leurs droits humains, ainsi que des partenariats pour pouvoir venir en aide matérielle pour les crèmes solaires, les chapeaux, les lunettes de soleil et consorts.
Et on revient toujours avec ce sujet presque chaque année pour essayer toujours de sensibiliser et d'éduquer la masse et d'en parler. Où en sommes-nous cette année, Madame Keita?
Bon, cette année, comme toutes les années, on fête le 13 juin comme la Journée internationale pour l'albinisme. Et ça continue la sensibilisation. Et la sensibilisation, je pense que pour la population générale, c'est quelque chose qui est en train de marcher. Mais ce qui concerne le vrai problème, et ça c'est les personnes atteintes d'albinisme qui sont dans les pays africains, dans les villages, dans les endroits où il y a moins d'éducation, je pense pas trop que les choses ont vraiment changé. Nous, on voit toujours des cas, des attaques, on voit toujours énormément de cancers de peau, surtout chez les enfants, les jeunes adultes. Tout ça, ça n'a pas changé. Les gouvernements, la plupart, ils n'ont pas changé leur travail par rapport aux besoins de santé et aux droits humains des personnes atteintes d'albinisme. Il n'y a pas eu de grands changements dans ce sens-là. Donc, on est toujours au mode de sensibilisation et c'est le combat qui continue continuellement.
Qui continue, et donc il y a un grand boulot à faire. Mais sûrement, vous, en tant que présidente de la fondation Keïta Global Foundation, vous parlez souvent aussi à beaucoup d'albinos que vous rencontrez, des personnes vivant avec atteinte d'albinisme, vivant dans le monde. Madame Keïta, parlez-nous un peu de défis qui vous relatent, qui vous parlent, que vous entendez, des défis auxquels les personnes vivant avec l'albinisme font face, hein, atteintes d'albinisme font face dans le monde, hein, et surtout encore en Afrique, notre continent.
Oui, je voudrais signaler que le vrai problème se passe en Afrique, parce que les personnes atteintes d'albinisme, bien sûr que c'est une condition qui existe à travers le monde, dans toute place. Le vrai problème, le vrai danger, c'est sur notre continent africain. Les autres personnes atteintes d'albinisme, oui, ils peuvent avoir des regards qui sont pas désirés, ils peuvent être un peu isolés, mais au fait, ils ne souffrent pas de cette persécution, cet isolement et ces attaques contre leur personne et leur corps. Donc, c'est vraiment le problème africain qui est au centre des droits humains des personnes atteintes d'albinisme. Et j'aimerais bien que le monde comprenne ça, parce que maintenant, il y a beaucoup qui essayent de dire oui, voilà, c'est le monde de l'albinisme et tout. Mais la raison pour laquelle cette journée existe même, c'est à cause du problème africain. Ce n'est pas parce que il y a l'albinisme dans le monde. Il y a beaucoup d'autres anomalies et conditions génétiques qui existent à travers le monde. Mais le problème de l'albinisme, c'est très particulier par rapport à ce qui se passe avec nos frères et sœurs atteints d'albinisme en Afrique. Et c'est là où la grande concentration doit être, et c'est là où le changement, le grand changement doit venir pour changer et améliorer leur vie. Donc, les personnes avec lesquels je parle, ils ont toujours les mêmes problèmes. Ils n'ont pas de ressources. Il y a beaucoup d'organisations et ces organisations, elles sont délaissées par les gouvernements et elles sont là en train de chercher par tous les moyens comment s'occuper de leur population. Comment peut-on vouloir que des organisations avec peu de moyens s'occupent de toute une population? C'est pas possible. C'est au gouvernement de chaque pays de prendre cette responsabilité. Ce sont des citoyens comme tous les autres citoyens. Ils ont les droits et ce n'est pas sur le dos des organisations que leur bien-être doit se trouver. Donc, ils ont toujours ce même problème. Et en plus de ça, il y a des alliances globales qui se passent, qui sont menées par des institutions qui sont à l'Occident au nom des Africains. Mais ces Africains, les Africains ne voient rien de ça. Aucun résultat. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent vraiment changer. On appelle vraiment aux Nations Unies vraiment de revoir comment ils sont en train de gérer ce problème d'albinisme. Oui, vous avez donné un jour. Oui, vous avez donné une experte indépendante. Mais quel travail concret se passe à ce niveau? Ce n'est pas une exploitation du problème africain, mais ça doit être des résultats concrets qu'on veut.
C'est l'une des grandes questions, en tout cas, qui me revient, même cette semaine. Les gens confondent, ils pensent que ces problèmes, c'est plus global, mais pourtant, je ne sens pas ce problème-là, autant ici aux États-Unis, par exemple, ou en Europe, plus qu'en Afrique, par exemple. Et je suis très content que vous élaborez beaucoup plus là-dessus.
Je voudrais vous signaler aussi, l'année dernière, j'ai parlé avec l'association française qui s'occupe de l'albinisme, et je leur ai parlé de faire une alliance globale. Et ils m'ont dit, ah non, nous, on n'a pas les mêmes problèmes que les Africains. On ne peut pas gérer les problèmes des Africains. Ça, ça dit tout.
Wow.
Ça veut dire
que wow.
Ils m'ont dit carrément ça, qu'eux, ils n'ont pas les mêmes problèmes et ils ne peuvent pas gérer le problème africain.
Voilà. Carrément, donc, carrément.
Carrément, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, mais maintenant, ils sont à la tête d'une alliance globale où eux, ils sont à la tête, l'association des Américains sont à la tête, tout l'Occident. Et bien sûr, ils disent qu'ils représentent le problème en Afrique. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Mmh. Vous admettez que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'êtes pas en train d'avoir des enfants venir avec des grosses tumeurs qui ont la taille d'un ballon sur leur tête. Vous n'êtes pas en train de trouver des enfants mutilés, tués, jetés dans la rue. Mmh. Vous n'avez pas ce problème, vous l'admettez. Mmh. Donc, c'est pas parce que les Africains ont ce problème et qu'il y a l'attention là-dessus que vous allez vous mêler sans faire du concret au nom des Africains. Non, nous avons nos problèmes et ça continue. Nous sommes sur le terrain tous les jours à voir la souffrance. Et rien ne change. Les ressources ne viennent pas aux gens qui en ont besoin. Mmh. Et il faut que ça soit signalé. Il faut que ce soit signalé que c'est en Afrique que le vrai problème est. Et il faut que les gens soutiennent les organisations qui travaillent directement en Afrique.
Une question qu'un auditeur nous a demandé. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'albinisme?
Ben, les avantages, ben, écoute, c'est toujours l'humanité. Mmh. C'est toujours, ils font partie de la différence du monde. Ils font la beauté du monde. Mmh. Donc, ça, c'est un côté positif. Les désavantages, je pense que c'est le côté, comme j'ai dit, en Afrique, ils ont ce manque de mélanine. Et le mélanine, c'est la protéine qui donne la couleur à toutes les personnes et qui nous facilite de bronzer et de pouvoir supporter les rayons du soleil. Mmh. Donc, ils n'ont pas de mélanine, donc ils ne peuvent pas bronzer. Donc, directement, ils brûlent dans le soleil. Alors, imagine le continent africain, la chaleur et le soleil permanent. Donc, dès qu'ils sont dehors, ils commencent à brûler. Directement et sans chapeau, sans crème solaire, sans autre remède, c'est les cancers de peau qui commencent. Donc ça, c'est un grand désavantage. Mmh. Ensuite, à cause du manque de mélanine, nos yeux fonctionnent avec la mélanine pour avoir une vision normale. Mmh. Donc sans cette mélanine, ils ont une vision qui n'est pas très bonne et ils ne voient pas aussi de loin. Donc, ils ont besoin de lunettes ou d'être placés en avant quand ils sont à l'école. Mmh. Et il y a le nystagmus, et je ne sais pas si tout le monde connaît c'est quoi le nystagmus, mais c'est un mouvement rapide de l'œil. Mmh. Donc, ça déstabilise l'œil. Donc, si vous connaissez des personnes atteintes d'albinisme, souvent, vous allez voir que leur œil bouge.
Oui, exactement.
Ça, c'est une condition qui s'appelle nystagmus. Ce n'est pas que les personnes atteintes d'albinisme qui l'ont, mais c'est un trait qui est très, très commun chez les personnes atteintes d'albinisme. Mmh. Et c'est souvent ça qu'on détermine si une personne a l'albinisme ou si c'est juste à retrouver la couleur d'un des deux
orteils. OK, OK. Voilà, on apprend toujours. On apprend toujours. Ouais. Wow. Et si ça vous dérange pas, je peux vous poser la question sur votre pouls?
Oui, allez-y.
D'accord. Alors, je disais aussi au début de cette émission que vous êtes Madame Salif Keïta, donc Madame Keïta Salif, si je dois le dire ainsi. Donc la femme du grand Salif Keïta, une grande voix africaine, une grande voix respectée partout en Afrique et dans le monde, si je dois l'insister ainsi. Avec ce monsieur-là, comment vous avez vécu ensemble avec cette condition dont on parle aujourd'hui?
C'est une question très intéressante, merci Roger. Mmh. Pour moi, j'ai grandi dans un milieu vraiment de diversité. Mmh. Et par les histoires de couleurs et tout, c'est pas un problème pour moi. Mmh. Pour moi, plutôt, c'était une curiosité. Parce que, franchement, et je lui disais tout le temps ça, peut-être par ignorance, certainement par ignorance,
ouais.
Mais j'avais un problème à comprendre s'il se considérait blanc ou noir. Et je vous dis ça parce que faut pas que les autres aussi aient peur de leur ignorance. Moi,
ouais.
J'étais très ignorante.
Oui.
Parce que je voyais cet homme qui est bien sûr d'origine noire, mais je vois la couleur blanche de. Et pour moi, c'est la race. Quand on parle de race, on parle de couleur.
Exactement.
Pour moi, c'était vraiment une confusion.
Ça, c'est une belle histoire. Ça, c'est une belle
histoire. Oui. Et je le disais tout le temps. Il me dit, mais je suis noire, Kumba. Je suis noire.
Okay. Ouais.
D'accord. Si tu le dis, tu es noire, mais tu es quand même blanc, quoi, tu vois. C'est pas quoi, c'est les deux. Ouais. Et voilà aussi la chanson, la différence.
Oui.
Oui, c'est ça. Et il parle de, oui, voilà, c'est ça, c'est vrai, je suis blanc, je suis noir. et c'est quelque chose à juste accepter. On peut pas tout comprendre.
Exactement.
On peut pas tout comprendre, ouais. Mais il faut qu'on accepte.
Ouais. Ah, ça c'est sûr. Et pour, enfin, je suis très content de vous avoir aujourd'hui et je suis très content d'entendre vos réponses et parce que je dois dire, vous-même vous n'êtes pas une personne atteinte d'albinisme, vous avez votre mari qui a un nom connu international, une star internationale qui est une personne atteinte d'albinisme et il y a des gens qui se disent que ça doit être difficile. C'est aussi un message, une leçon à ces gens-là. Comment, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là, Madame Keïta, qui se disent non, cette personne-là, c'est une personne vivant avec atteinte d'albinisme, c'est difficile de vivre avec des gens. Qu'est-ce que vous dites à des gens qui pensent comme ça?
Ben, en fait, l'amour, ça n'a pas de condition, en fait. C'est inconditionnel. Ça n'a rien à voir avec la couleur, ça n'a rien à voir avec l'handicap. On tombe amoureux des personnes, de leur humanité, de leur cœur, de qui ils sont. Il y a beaucoup plus à voir chez une personne que la couleur de leur peau ou de leur condition. Salif, comme vous l'avez dit, il est un artiste, mais avant tout, il est un homme, il est un père, il a un caractère qui est désirable. C'est quelque chose qui, je pense que il faut qu'on arrête de regarder les choses en surface, qu'on regarde les choses pour les juger, mais plutôt pour les comprendre et pour se comprendre entre nous et pour développer des relations humaines, humaines basées sur notre connexion humaine et notre entente et compréhension, mais pas par rapport à l'extérieur de la personne ou ce qu'on pense est bien et n'est pas bien. C'est pas à nous de juger quoi que ce soit, mais c'est à nous d'aimer. Et on est là pour aimer et s'aimer entre nous. Et puis c'est tout.
C'est un message très très fort, Madame Keïta, un message très 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 fort. Alors moi j'en profite en tout cas parce que je sais pas quand est-ce que je vais encore avoir Madame Keïta. Quels sont les défauts de Salif Keïta?
Faire quoi là, Roger? Roger, tu as commencé stage et maintenant là, non. Comment ça passe les problèmes?
Et puis on va passer au bon côté. Attends, chacun a le bon côté, le mauvais côté. Chacun des bons côtés, des mauvais côtés. Écoute, moi j'ai des bons côtés, des mauvais côtés. Madame Keïta Kumba, même chose. Salut de répondre. D'accord. Alors, quels sont les bons côtés de Salif Keïta?
Ok, bah d'accord. Mais pour moi, et je crois que vous pouvez le sentir, mais c'est un homme extrêmement déterminé. C'est un homme qui est sorti, qui est né dans un village il y a 70 ans où sa maman s'est fait éjecter du village à cause de son albinisme.
Wow.
Et le père, il a repris les bons sens, il les a fait revenir, mais quand je parle avec la famille là-bas, il a grandi isolé, parce que ce sont des personnes dans l'agriculture. Et son père, heureusement, avait la connaissance, ou avait compris que Salif ne devrait pas être au soleil. Donc Salif n'allait pas au champ. Mais tous les autres enfants étaient au champ. Donc il a grandi seul, au fait.
Ouais.
Pendant que les autres faisaient des activités normales, lui, il était isolé, mais c'était pour le protéger. Dans cette idée-là, il a souffert un peu de cet isolement, bien que c'était protection, mais ça l'a rendu une personne qui prend beaucoup de perspective intérieure. Il a toujours pensé à sa vie. Où est-ce que sa vie doit aller? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va vivre, survivre? Et ça a toujours été une préoccupation pour lui dès qu'il était très jeune. Et il est parti. Il est parti tout seul à Bamako. On peut voir l'histoire de sa vie, mais il est parti à Bamako sans savoir ce qu'il allait faire. Mais après, il a découvert qu'il avait un don. Il ne savait pas qu'il avait ce don. C'est venu après. Il ne savait pas qu'il pouvait jouer la guitare. Il a eu accès à une guitare et après, il a dit, mais j'arrive à jouer, j'arrive à chanter. Et petit à petit, les choses sont venues. Donc, c'est une personne qui s'est jamais assis pour dire, OK, je vais être une victime. Je vais être victime de mon sort, parce que c'est ce que les gens pensent. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est pas limité à son albinisme ou à un handicap. Il s'est dit, je dois réussir ma vie, je dois être indépendant et je dois le faire par n'importe quel moyen.
par n'importe quel moyen. Restez avec nous, Madame Keita Kumba Makalu, épouse de Salif Keita, notre invité spécial aujourd'hui dans RM Show. Vous êtes en train de nous capter à Bamako, à Tombouctou, à Kinshasa, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Libreville. Vous êtes nombreux, nombreux comme d'habitude. Restez avec nous parce qu'en deuxième partie, on aura la suite de cette interview avec Madame Keita et vous suivrez aussi une petite partie d'interview qu'a eu notre collègue Nathalie Barge avec lui-même Salif Keita ici sur VOA Africa. Les amis, n'hésitez surtout pas, écrivez-moi ou envoyez-moi un message sur WhatsApp au plus 1 703 350 37 31 Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. God bless. Peace Africa.
Show dans cet avion super fast, super sonique. Ici votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Vous m'avez capté en direct de Washington DC, la grande capitale de United States of America. Et ça me fait tellement plaisir de vous savoir nombreux de nous suivre comme vous le faites chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Cette semaine, on parle de personnes vivant avec ou atteintes d'albinisme et les conditions que ces personnes sont encore en train de vivre aujourd'hui. Mais on parle aussi plus de success story, ceux-là qui ont réussi. Et pourquoi pas la meilleure personne à voir aujourd'hui dans RM Show, Salif Keita. Et on a aussi Madame Keita, sa femme, qui est aussi son épouse, qui est aussi la présidente de la fondation Salif Keita Global Foundation. Écoutez, Salif Keita, connu, hein, comme on le sait tous, la notoriété dans les années 1970 au sein des deux plus grands orchestres du Mali de l'époque, le Ray Band et les Ambassadeurs. Oui, Depuis Soro, son premier album solo sorti en 1987. Cet auteur, compositeur, interprète n'a eu de cesse de renouveler comment la musique africaine. Il a chanté avec plusieurs artistes de ce monde. Sa voix transmet la chaleur, on le sait très bien, hein, de la culture mandingue même. Il puise dans ses origines la richesse de sa création. Il chante en malinké, en bambara, en français, même en anglais de fois, hein, démontrant la force que peuvent apporter les échanges, hein, très 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 important. Je suis noir, ma peau est blanche et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie. Il chante dans cette chanson qu'on va écouter en ce moment, La Différence, premier titre de l'album éponyme enregistré entre le Mali, les États-Unis et le Liban, réalisé par Patrick Renson, qui a notamment aussi travaillé avec Vanessa Paradis, hein. Ce petit bijou est un hymne de tolérance. On parle de tolérance et de l'amour. Les rythmes enchanteurs invitent aussi au voyage et à la découverte des termes inconnus, hein. Et c'est très 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 beau à écouter cette belle musique de Salif Keita avant qu'on puisse continuer notre interview avec Madame Keita Kumba Malaku, qui est la présidente de la fondation Salif Keita Global Foundation. On écoute La Différence.
I am black, my skin is white, I am what I am, in the difference as is me.
Chanson, très belle voix de Salif Keïta. Alors revenons à nos moutons avec Madame Keïta Kumba Makalu qui est notre invitée aussi ce soir. Vous étiez en train de parler de la détermination de Salif Keïta.
Alors ça c'est la détermination et c'est la détermination que je conseille à toutes les personnes qui ont un handicap, qui ont l'albinisme, c'est ne vous asseyez pas pour qu'on vous dise vous êtes né pour être des mendiants, ou vous êtes né pour ne pour servir à rien, vous êtes là, vous êtes quelque chose qui n'aboutira à rien. C'est absolument faux. C'est à vous-même de comprendre votre valeur et de chercher et de vous battre vous-même. Personne ne peut le faire à votre place et personne ne peut vous empêcher de le faire si vous êtes complètement déterminé à réussir. Donc voilà, donc Salif, son côté positif, c'est sa détermination. Bien sûr, il est talentueux, mais ça, je sais que c'est un don de Dieu. Il ne peut pas à côté de lui. Hein,
Je sais. Vous avez l'habitude de voir ça. Pour vous, c'est rien. Mais pour nous, c'est notre idole. Pour vous, c'est bon. C'est un talent de Dieu.
Non. Il est vraiment très fascinant. Il est très fascinant comme personne.
Et moi je l'ai rencontré plusieurs fois aussi. Je pense que cette détermination, ça j'ai vu, et j'adore son côté Fanny quand même. Et humble et pour cette personne qui est une star internationale, mais vraiment un monsieur humble, gentil, Fanny. Il m'a toujours fait rire chaque fois que je le vois. Ouais. Il me fait toujours rire.
Il aurait pu être un grand comédien parce que Salif peut rire.
Ça se voit.
Les gens ne savent pas, ils rient tout le temps.
Et je pense aussi, ça aussi, ça a fait partie de ce qui vous a fait tomber amoureuse de lui, ça c'est sûr.
Ah oui, ça est bien autre chose, hein, ça ne s'arrête pas là.
Je finis avec ma dernière question. Le thème de la journée de cette année qui est le 13 juin de la semaine dernière, c'est fait pour briller, ou en anglais on dit made to shine, avait été choisi pour célébrer et mettre avant les réalisations, les succès des personnes atteintes d'albinisme, malgré, hein, comme on vient de le dire ici, des nombreux défis auxquels elles font face. Et Salif Keïta, c'est un grand nom. Est-ce que vous connaissez aussi des noms de certaines personnes vivant dans l'albinisme qui ont réussi, qui sont des modèles aussi au même titre que Salif Keïta?
c'est peut-être difficile, mais je peux dire que il y a eu un président, il y a eu un chef d'État des îles Comores qui avait la chose, hein. Il y a des ministres au Mali, il y a un ministre de la région du culte depuis plusieurs années, Tierno Diallo. Il y a un ministre de communication aussi.
Congo-Brazzaville, oui.
Oui. Il y a bien sûr notre fille maintenant qui est championne paralympique.
Ouais. C'est parce qu'il y a aussi un grand producteur télé, radio au Congo, Kinshasa, Yann Mambo, un grand vraiment, un des plus grands, si pas le plus grand, Yann Mambo, ouais. Qui est aussi un ami au Congo, Kinshasa, ouais.
Oui, il y a des personnalités de télé. Il y a aussi notre programme qu'on a fait récemment pour le 13 juin, la participation d'une mannequin et actrice de l'Afrique du Sud.
Oui.
Qui vient de gagner.
Ah oui, c'est vrai, j'ai parlé même d'elle un peu là. Oui, c'est vrai. Oui.
Ouais. Elle est aussi de gagner ce grand prix et c'est possible qu'il passe l'Oscar. Ils sont en train d'attendre.
Oh, wow, that's great. Wow.
Passe les doigts pour ça.
Ouais.
Donc, il y a la liste, vous voyez, c'est déjà tellement long.
C'est déjà tellement long, ça c'est sûr. C'est déjà tellement, ça c'est sûr. Ça c'est encouragé. Et alors, comme on finit déjà, Madame Keïta, je vous laisse dire un mot avant qu'on se dise au revoir pour tous ces gens qui sont en train de vous capter partout dans le monde.
Donc, mon dernier mot, c'est qu'il est très important pour que les personnes atteintes d'albinisme et les associations qui les représentent, qu'ils s'unissent, qu'ils soient solidaires. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations maintenant qui sont dans chaque pays, mais la plupart ne travaillent pas ensemble. Et chacun fait de son côté. Et l'union, c'est la force. Donc, il faut absolument qu'on s'unisse, que tout le monde travaille ensemble. Nous, c'est vraiment notre objectif. Et c'est de pouvoir nous défendre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en s'unissant, on peut représenter notre cause nous-mêmes. On n'a pas besoin de l'Occident ou d'autres organisations à l'extérieur de l'Afrique pour nous représenter ou pour représenter le problématique qui se trouve sur notre continent. Donc, pour moi, c'est l'idée de venir ensemble et de travailler ensemble et de faire le changement nous-mêmes pour nos populations. Parce que les personnes atteintes d'albinisme, elles ne sont pas différentes des autres Africains. Elles sont exactement pareilles. Les personnes atteintes d'albinisme viennent des Africains, des parents noirs ou des frères et sœurs. Nous sommes pareils. Nous sommes une race avec des différentes couleurs. Et c'est ensemble qu'on aura notre victoire pour un meilleur continent. Donc, je nous appelle tous à nous unir pour cette cause et à travailler ensemble.
Madame Keïta Kumba Makalu, je rappelle que vous êtes présidente de Salif Keïta Global Foundation. Je ne peux que vous dire merci infiniment pour ce temps que vous nous avez accordé.
Merci Roger, je suis là quand tu veux.
Super. C'était là une interview exclusive avec Madame Keïta Kumba Makalu, épouse de Salif Keïta et présidente de la fondation Salif Keïta Global Foundation. Dans un instant, nous allons aussi écouter Salif Keïta dans l'interview avec Nathalie Barge, notre collègue de VO Afrique. Mais tout de suite d'abord, place au sport avec Georges Léonard Sagnon. Bonsoir Georges.
Salut Roger, ainsi que la belle Afrique. En football, la CAF, la Confédération africaine de football, hésite à annuler les compétitions interclubs de cette saison sur le continent. Et pourquoi ? Élément de réponse avec l'analyste sportif Lawal Dine Koshourou. Il est au micro d'Élisée Oumpatine, correspondant sport de VO Afrique au Bénin.
Elle n'a pas intérêt à les annuler parce qu'il faut voir un peu la manne financière que cela représente. Et personne n'est assez fou pour perdre de l'argent. Les sponsors sont là et les sponsors vont forcément, quand ça va reprendre, continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et c'est un bonus pour la CAF et ce sera également bien pour les clubs parce que, souvenez-vous, les redevances pour les clubs. On en a vu qui ont reçu dernièrement et qui ont été très heureux de ce qui est reçu. Les joueurs ont été payés par endroit. Les joueurs sont aujourd'hui très heureux. J'en ai appelé un la dernière fois qui m'a dit qu'il est très content parce que maintenant il peut vivre comme il l'espérait. C'est quelque chose d'assez important. Donc ça va être bénéfique pour chacun des acteurs du foot africain.
Vous écoutiez la Waldine Kochoro, analyste sportif béninois. Merci à vous deux. C'est aussi la fin des sports. Un clin d'œil à tous nos auditeurs de Kisangani et de Butembo en RDC, sans oublier nos amis de Niagassola et de Soulouta en Guinée. À demain.
Merci beaucoup à Georges Léonard Sagnon. Je laisse pour les intimes. On continue avec notre émission spéciale aujourd'hui où nous avons les Keïta dans cette émission après cette interview avec Madame Keïta Koumba Makalou, épouse de Salif Keïta. Retrouvons Salif Keïta lui-même au micro de Nathalie Barge dans son émission Le Monde au Féminin.
A créé dans son pays, le Mali, une entreprise dans laquelle il embauche des femmes pour produire des condiments. Le chanteur à la voix d'or en a parlé au cours d'un entretien à la Voix de l'Amérique, dans lequel il a notamment rendu hommage à sa mère, qui a affronté les croyances rétrogrades pour protéger son fils atteint d'albinisme. Dans cette interview, il revient sur son annonce de 2018, disant mettre un terme à sa carrière musicale, tout en affirmant continuer la production d'artistes dans son studio à Bamako, où la chanteuse sud-africaine Simfiwi Dana a enregistré son dernier album.
Un album, c'est beaucoup de morceaux, c'est 12 morceaux, sinon plus, je n'ai plus l'énergie de faire ça. Je vais peut-être faire des arrangements isolés, mais pas de disques. Parce que je crois que j'ai l'âge de la retraite et j'aimerais bien me reposer pour faire un album. Il faut du temps.
Votre album, vous l'avez appelé Un Autre Blanc. Pourquoi Un Autre Blanc?
Un Autre Blanc parce que moi, je suis un Africain. Moi, j'ai le sang noir et la peau blanche. Et les Blancs, ils sont de peau blanche et de race blanche. Donc moi, je suis un autre blanc.
Dans cet album, vous avez vraiment de très beaux morceaux. Vous l'avez d'ailleurs sorti à l'occasion du concert à Fana au Mali, n'est-ce pas, en hommage à cette petite fille de 5 ans, Ramata, qui était donc albinos et qui a été assassinée. Pourriez-vous nous dire un mot sur ce concert, sur ce qu'il en ressort, sur ce que vous retenez?
Je sais que c'était magique ce concert parce que c'est une leçon qu'on a donnée aux criminels. Il y avait à peu près 60 000 personnes dans le stade et vraiment c'était une réussite, c'était une gifle qu'on a donnée aux criminels qui croient que la vie s'arrête là. Non, c'était vraiment quelque chose de grandiose.
Alors justement, au niveau de l'albinisme, pendant toutes ces années, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des progrès?
Il y a eu beaucoup de progrès. D'abord, les albinos ne s'assumaient pas parce que ils se fréquentaient pas, ils s'aimaient pas. Et maintenant, ils se voient, ils se consultent, ils font des associations et ils se battent pour leur cause commune. Et ça, c'est une grande réussite. Et d'autre part, il y a eu quand même les Nations Unies qui ont voté le 13 juin comme journée de l'albinisme. Donc ça, c'était grand pas, une grande chance pour nous. Et dans le monde entier, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se battent pour rendre la vie paisible des albinos.
Mais en ce qui concerne les croyances, les mentalités, pendant une cinquantaine d'années, quel type de progrès vous avez pu observer? Est-ce que les mentalités ont réellement évolué?
Pour lutter contre une culture, c'est pas facile, Nathalie. Il faut avoir de la persévérance, il faut se donner, il faut avoir le cœur. Et il faut être convaincu de ce qu'on est en train de faire. Et nous sommes convaincus qu'on va réussir. Et c'est vrai que toujours il y a des assassinats, il y a des sacrifices humains perpétrés sur les albinos, mais on ne va pas les laisser faire. On va se battre pour que ça cesse. Parce que c'est une culture. Et une culture, ça n'est pas dans les millénaires que ça s'installe. Donc on ne peut pas se battre quelques jours et l'effacer et gagner. Mais nous sommes sûrs de gagner. On va gagner.
Les commanditaires, les procès, les jugements dans tout ça, est-ce qu'il y en a eu ?
Il y en a eu, elles sont toujours bloquées. C'est vrai que les vrais commanditaires de ces assassinats sont replacés. Et chaque fois qu'on veut monter là-haut, on nous bloque.
Mais vous-même qui êtes haut placé dans le monde des artistes, oui, vous n'avez pas la possibilité de dénoncer certains commanditaires ?
Je suis haut placé peut-être parmi les artistes, je ne suis pas haut placé politiquement où ces commanditaires sont. C'est pas facile pour moi seul d'y arriver.
Alors, vous avez une chanson qui s'appelle Syrie. On connaît bien ce pays, cette guerre qui dure depuis de très longues années. Une très belle vidéo où vous montrez une femme, des jeunes, des enfants dans les décombres. C'est une chanson contre la guerre, bien entendu, mais pas seulement. On imagine en Syrie, partout dans le monde.
C'est partout dans le monde. Je voulais parler de la guerre, mais partout dans le monde. Parce que si vous voyez Nathalie, qui souffre dans tout ça ? Les femmes et leurs enfants. Chaque fois qu'il y a une guerre, on voit les femmes dans les mains des enfants en train de chercher des abris. On ne peut pas regarder ça sans être touché. Et donc, je parle de toutes les guerres dans le monde.
À propos de femmes, Ita Raffo, c'est un autre morceau de votre album. Oui. Angélique Kidjo y a participé. Quelle est cette histoire, l'histoire de Ita Raffo?
Cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a un voyant qui a dit à maman, voilà, c'est à cause de cet enfant que ton mariage risque de casser. Donc, débarrasse-toi de ça, de cet enfant, comme ça, tu seras en paix avec ton mari et tu vas continuer ton mariage tranquillement. Ma mère a dit que Dieu ne se trompe pas.
C'est en rapport à votre histoire ?
Oui, Dieu ne se trompe pas. Il m'a donné cet enfant, donc il sait ce qu'il a fait. Moi, je préfère cet enfant à d'autres choses.
Donc on revient encore dans le problème de la culture dont vous parliez tout à l'heure. Le morceau Mansa Fola, avec la participation de Alpha Blondy. Alors là, vous tirez sur l'extrémisme justement dans votre pays, notamment au Mali.
Il y a trop d'escrocs maintenant. Ils viennent avec le nom de Dieu pour exploiter les gens. C'est des escrocs, c'est des voleurs. Et qui, aux yeux de tout le monde, sont en train d'escroquer la masse populaire qui est naïve. Et ça, je crois qu'il faut que ça cesse, ça. Il faut que ça soit dénoncé.
Vous avez beaucoup influencé la musique moderne africaine. Si l'on parle d'une sorte de rétrospective en ce qui vous concerne, comment voyez-vous votre évolution à vous, ces 40 années de carrière, environ 25 albums? Si vous vous retournez en arrière, qu'est-ce que vous voyez?
Je suis toujours à l'école. On finit jamais d'apprendre. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné beaucoup d'expérience, Carlos Santana, Jose Avenue. J'ai travaillé avec Kanté Bafela qui m'a tout appris, pour ne citer que ceci parmi tant d'autres qui m'ont donné de l'expérience. Mais tant qu'on n'est pas mort, on est toujours à l'école, on apprend toujours.
C'est une bonne leçon que vous nous donnez là.
Oui, merci.
On va parler de votre studio à Bamako, justement. Vous produisez de nombreux artistes dans ce studio ?
Oui. Tous les garçons, toutes les filles qui veulent s'impliquer dans la musique, on les reçoit à bras ouverts.
Vous produisez des artistes africains. Natou Camara m'avait dit que l'avantage était que c'était un excellent studio et que c'est beaucoup moins cher qu'en Europe ou qu'en Occident. Est-ce que vous pensez éventuellement produire des artistes occidentaux ?
Ah, il y a des artistes occidentaux qui sont partis là-bas. Il y a plein d'artistes occidentaux qui sont venus enregistrer dans le studio. C'est ouvert pour tout le monde.
Quand vous dites c'est ouvert pour tout le monde, vous avez en vue des artistes ?
On vient de produire une femme sud-africaine, Simpiwe, qui est venue nous voir quand on a produit son album et c'était vraiment génial. Mmh. Ça doit sortir en avril.
Vous avez également monté une association de femmes sur la vente, la fabrication de condiments, c'est cela ? Oui. En Afrique, c'est au Mali ?
Oui, j'ai plutôt fait une petite usine pour employer des femmes. Parce que je sais que les femmes ne travaillent pas souvent et qu'elles ont tellement de chances familiales que je serais très content d'employer plus de femmes que maintenant.
Vous en avez une quarantaine, c'est ça? C'est déjà beaucoup, oui. Et vous voulez agrandir donc l'entreprise?
Oui, je sais que vraiment elles ont besoin de ça et je serais très content, très fier d'employer de plus en plus de femmes.
Alors comment vous les avez sélectionnées, ces dames?
Ces dames, on les sélectionne selon... Elles viennent. Dès qu'elles ont senti qu'il y a du travail pour les femmes, elles viennent. Et quand elles viennent, tout ce qu'on demande seulement, est-ce que vous avez le temps de travailler? Parce qu'il y a certaines femmes, leurs maris ne veulent pas qu'elles travaillent. Ça, c'est aussi. Non seulement ils donnent rien aux femmes, mais ils veulent pas que les femmes travaillent. On veut pas créer de problème familial. On leur dit, est-ce que vous avez le temps de travailler? Quand elles disent oui, on les emploie.
Et donc, c'est des femmes de tout âge?
De tout âge.
Et quel type de condiments elles produisent?
Et nous faisons du piment, du poivre et du soumbala.
Donc, vous avez commencé à commercialiser déjà?
On a commencé à commercialiser.
Et l'objectif, c'est d'exporter aussi?
J'aimerais bien avoir des correspondants en dehors du Mali, en dehors de l'Afrique d'ailleurs, parce que je sais que c'est des bons produits.
Vous allez donner la griffe Salif Keïta?
La griffe Salif Keïta. Oui, mais non, mais je sais que ça s'appelle pour le moment, ça s'appelle Nafin. Et Nafin, ça veut dire les condiments. La société s'appelle Nasraoulé.
Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Pourquoi les condiments? Parce qu'on a très bons condiments en Afrique, parce que vous adorez ça ou...
Non, parce que je crois que les condiments, nous sommes en train de partir dans d'autres sens, utiliser des condiments qui ne sont pas des condiments africains. Donc ça, c'est des condiments africains. On consomme local.
À propos de femmes encore, la situation des femmes en Afrique et dans le monde, l'on sait que...
Si les femmes étaient à la pointe de la politique mondiale, nous n'allons pas souffrir comme ça. Parce que selon maman, elles sont prêtes à tout faire pour les enfants. Parce que c'est elles qui ont l'amour au monde.
Donc vous, Monsieur Keïta, vous en êtes conscient, mais est-ce que vous pensez que beaucoup de personnes dans ce monde sont conscients de ce que vous venez de dire et d'affirmer?
J'espère qu'on va avoir de plus en plus de femmes responsables dans le monde pour nous sauver.
Est-ce que vous pensez que les hommes auraient plus ou moins peur de voir plus de femmes au pouvoir? Est-ce que vous pensez que ce sont les hommes, certains hommes, qui pourraient freiner cette marche, en tout cas pour qu'on parvienne à la parité?
On va le comprendre, Nathalie. On va pas s'arrêter là, on s'en fiche. S'ils soient contents ou pas, c'est pas notre problème. Nous voulons sauver le monde. Et c'est avec les femmes qu'on va le sauver. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je sais comment ma maman a souffert pour que j'en sois là.
Mmh. Vous voulez dire encore un mot sur votre maman?
Ouais. Les femmes sont braves parce que je sais, l'exemple, c'est ma mère.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris, votre maman?
Elle m'a donné beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Elle a failli mourir à cause de moi. Elle a trop souffert à cause de moi. Et je sais que toutes les femmes sont pareilles comme ça. Beaucoup de femmes sont prêtes à donner leur vie pour leur progéniture.
Salif Keïta, dont vous pouvez voir l'entretien vidéo sur notre site internet et la page Facebook de VOA Afrique.
merci à notre collègue Nathalie Barge pour cette belle interview avec l'artiste Salif Keïta. Merci aussi à mon invité de ce soir, Madame Keïta Kumba Makalou, épouse de Salif Keïta et aussi présidente de la fondation Salif Keïta Global Foundation. Les amis, on est ensemble, on continue demain dans Island Music. Beaucoup de vos réactions aussi demain dans cette émission. Aujourd'hui, c'était une émission spéciale. Espérons que vous avez aimé ce voyage avec nous, avec cette belle chanson de Salif Keïta et Cesaria Evora dans la chanson Yamone, cette belle chanson qu'on vient juste écouter. On va atterrir à Washington DC et moi je vous retrouve demain. Ne ratez pas RM Show comme d'hab. Je vous dis, God bless.